Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 121e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Faskil, comment tu vas-tu bien?
Écoute, un petit peu enrhumé, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop et que je ne devrais pas faire des pieds et des mains pour faire un montage qui va durer 3 heures après derrière pour rattraper mes bourdes. On voulait s'excuser de pas avoir été là la semaine dernière, mais voilà, on a eu des emplois du temps un petit peu incompatibles, on va dire, et on s'est retrouvé à se dire bon bah soit on le fait en rush et ça sera pas terrible, soit on le fait pas.
Et puis en plus l'actu me faisait pas complètement triper la semaine dernière, alors j'ai envie de dire ça tombait bien parce qu'on avait plein de trucs à faire. Et si vous m'entendez parler avec des feux comme ça vastement aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait un steak de langue.
Tous les deux bien arrangés là.
Et alors c'est pas facile en fait de parler quand t'as la cicatrice sur le côté et t'essayes de pas te remordre et tout. Enfin bon bref, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais là, je me suis vraiment pas raté, c'est mon record. Nul sur 10, je ne conseille pas. Voilà.
Ouais, si on t'entend hurler pendant le podcast, on saura pourquoi.
Exactement.
On va y aller tout de suite avec le gaming et Megaman.
Ah ouais, on parle d'un vieux truc. C'est Capcom qui ressort ses fonds de tiroir et du coup, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas parler de vieux trucs et de se rappeler à quel point les jeux vidéo c'était difficile. On n'a pas attendu Dark Souls pour en chier en fait. Donc là c'est la Megaman Zero ZX Legacy Collection. C'est une compilation qui vient de sortir sur Steam qui regroupe 6 jeux en fait qui datent environ du début 2000 pour la série Zero sur GB Advance, enfin Game Boy Advance, et les ZX c'était sorti sur la Nintendo DS. Alors vous verrez les reviews sur Steam là, elles sont en mixed direct, c'est parce que c'est pété de bugs au niveau des sinon c'est pas drôle. Il y a des mecs qui ont briqué entre guillemets leur émulation, enfin leur jeu, qui peuvent plus le lancer parce qu'ils ont voulu changer la résolution. Et quand tu veux le mettre en 1080, des fois il aime pas. Et écran noir, ça marche plus, t'es content. Donc il faut aller effacer ses sauvegardes et tout. Évidemment, si ça vous arrive, tout est expliqué dans le thread de discussion qui est dans la page du jeu. Ça, je vous le dis parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Et sinon, si vous vous dites, ça sert à rien, moi j'ai les jeux et puis je les émule comme un grand avec mes trucs à la maison, voilà, hein, parce qu'on sait tous que ça existe et qu'on peut le faire. Là, il faut quand même préciser qu'ils ont pas mal bossé, les petits gars. C'est qu'ils ont rajouté en fait un truc qui est très utile sur cette série de jeux, c'est un mode casu, un mode casual, un mode pour les noobs,
beaucoup un mode pour moi.
Voilà, et franchement, c'est pas du luxe. Enfin, je veux dire, c'est un mode pour toi, mais c'est un mode pour plein de gens, ouais. Parce que c'était une série qui était c'était pas des niveaux très longs, mais c'est hyper chaud. Et là, ils ont fait, ok, on va vous aider. On est en 2020, on vous connaît. Donc là, on rajoute un mode casu, des points de sauvegarde, il y en a plein, pour essayer de faire en sorte que vous ayez pas envie de balancer le jeu par la fenêtre directe ou de vous faire rembourser. Non, gars, ils veulent pas rendre l'argent, hein, jamais personne. Personne ne veut faire ça. Et donc là, ils ont évidemment fait un travail autour de l'émulation, en plus, qui est plutôt intéressant, avec différents types de lissage. Comme évidemment, la résolution correspond à rien par rapport à nos écrans modernes. Tu as des systèmes de wallpaper, enfin d'habillage, qui vont se mettre autour de ton jeu, que tu peux faire varier. Me demandez pas des skylines hein, sur cette version. C'était des versions GBA, les mecs, et DS, il n'y a pas de skyline. Hein. Je le précise tout de suite.
Parce que j'ai qu'il y a du pixel perfect.
Non, mais voilà, j'ai vu. C'est ça, sur des trucs, je fais « Ok, toi, t'es débile. » Et puis, après, il y a les bonus habituels sur ce genre de titre. T'as une galerie de documents de travail et d'artwork, mais ils ont été assez loin dans le délire, puisque là, ils ont même rajouté un truc qui s'appelle les ZZ Cards. Et en fait, c'était un truc, évidemment, je suis même pas sûr que ça soit sorti chez nous. C'était des cartes physiques que tu lisais avec l'e-reader de la GBA, en fait. Et ça affichait des trucs. Et ils ont même rajouté, toujours un truc qu'on n'a pas du tout sur l'émulation, entre guillemets, classique, c'est que tu peux linker, en fait, les versions ZX, enfin, l'épisode ZX avec les versions antérieures qui sont Megaman, donc 0, 3 et 4 en fait tu pouvais le faire sur ta DS, tu pouvais mettre en fait des cartouches GBA dans la DS et quand tu avais ton jeu DS et ton jeu GBA en même temps, ça débloquait des boss optionnels.
D'accord.
Et du coup ils ont rajouté cette possibilité là dans le truc, donc ils ont vraiment tout mis. Ça coûte 30 balles si vous êtes un nostalgique de cette série, de c'est même si c'est les puristes vous le diront, hein, c'est pas les meilleurs Megaman, il y a des gens qui sont pas, voilà, il y a un débat là, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça ne me passionne pas, voilà,
venez en parler dans le forum,
voilà, venez m'expliquer dans le forum et je le lirai pas. Et non, je le lirai, ça me fait plaisir, je lis tout dans le forum, presque tout, enfin certains trucs. Et franchement vous verrez que c'est beau. Il y a, c'est sujet à débat. Mais en tout cas, le résultat, quand ça plante pas, est plutôt pas mal. Et pour 30 balles, bon, on a vu pire dans l'histoire du jeu vidéo.
Et on passe du côté des jeux de baston avec la nouvelle édition de Street Fighter V qui vient de sortir et que j'ai acheté. J'y jouerai pas, je resterai un sac toute ma vie, mais je sais pas. Je l'ai vu passer, j'ai fait, bon, il y a plein de persos, c'est rigolo.
Ah bah là, il y en a plein, je te confirme. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est Street Fighter V Champion Edition. Alors vous allez me dire, mais attendez les gars, Street Fighter V, on en est où? C'est le bordel. Oui, c'est pas faux. Donc le jeu est sorti il y a 4 ans, hein, voilà. Dans un état, proche de l'Ohio, comme on dit, quand pour faire la vanne.
En puzzle.
Mais voilà, en puzzle avec plein de trucs à acheter en DLC, en Fight Money, qui est la monnaie dans le jeu. Et grosso merdo, avec surtout un casting avec plein de trous partout. Il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de persos emblématiques. Mmh. Donc, ils ont corrigé un peu ça avec Street Fighter V Arcade Edition en 2018. Et donc là, on en est à la Champion Edition. Alors, évidemment, là, on parlait de tarifs et d'arnaques et tout ça. Bon, loin de moi l'idée de vous dire que vraiment Capcom t'abuse. Mais bon, sur la longueur, ça fait cher. Mais là, si vous avez rien acheté, c'est une bonne nouvelle.
Bah oui, c'est ce que je me suis dit. C'est pas cher, c'était quoi, 30 balles, je crois.
C'est 30 balles. Ouais. Et si t'as déjà le vieux jeu, c'est-à-dire le jeu de 2014, ça sera 25 balles. Et j'arrive pas à avoir le tarif comme j'ai les deux. J'ai pas réussi à avoir le tarif parce que tu as encore un peu moins cher si tu as l'arcade édition, en fait.
D'accord.
Sauf que t'as un système d'upgrade parce que l'arcade édition était déjà une upgrade de la première version, tu vois. Donc, sauf que l'arcade édition n'était pas une édition extraordinaire. Du coup, tout le monde s'est pas apesanti. Enfin, on s'est pas apesanti dessus. Mais il n'y avait pas beaucoup de choses. Alors que là, pour cette version Champion Edition, ils ont fait, OK, là, c'est la fin. On a bien essoré la machine. On va tout mettre. Alors, ils ont presque tout mis. C'est-à-dire que tu as 40 persos, 34 stages, 200 costumes. T'as le temps de voir, tu vois, pour les tester, tu vas voir. Ça, il y en a pour un moment.
J'ai joué avec un Ken en Megaman qui était très rigolo, je dois dire.
Voilà. Et en fait, ils ont rajouté, t'as tous les costumes de crossover. Donc, t'as plein de trucs débiles. T'as même l'impression de jouer à des Marvel versus Capcom sur certains trucs. C'est vraiment assez, enfin pas Marvel mais enfin les autres séries de jeux qui où ils ont rajouté des costumes qui sont vraiment tous présents. Et tu as quelques trucs qui manquent ou bon, alors est-ce que c'est radin attitude, est-ce que c'est des problèmes de droit, c'est toujours compliqué de savoir.
Capcom radin, non, ça saurait.
Non, bah alors moi je voilà, en bon fan de Monster Hunter, je n'ai rien à dire sur Capcom car ce sont mes amis, ce sont mes vendeurs de drogue. Mais non, vraiment ils ont il manque les éditions limitées pour les costumes, tout ce qui est costume de sponsoring qui existe en fait, que vous avez vu passer, les costumes du Capcom Pro Tour en DLC, tout ça c'est pas dedans. Il manque aussi 4 stages qui sont ceux qui sont utilisés en tournoi a priori. Bon, bah pourquoi je ne sais pas, mais écoutez, tant pis. Il y a largement de quoi faire et puis en 2020, ça reste un excellent jeu de baston. Loin de moi l'idée de dire que ça aurait été mieux s'il était sorti comme ça en 2014, mais s'ils ont gagné de l'argent et que tout va bien, là c'est le moment de craquer. En revanche, j'ai une petite pensée pour ceux qui ont tout acheté au fur et à mesure, des bons Yankees, et qui sont en train de compter leur argent et de dire plus jamais on ne m'aura. Parce que voilà, là, je pense que ce genre de truc, au bout d'un moment, les gens vont dire, mais en fait, je vais attendre que tu sois en promo dans 4 ans, j'en ai rien à foutre.
C'est ce que j'ai fait.
Voilà, j'ai un backlog de 200 000 ans. Tu sais, il y a vraiment que les gros fans qui vont foncer, au bout d'un moment, et c'est un petit peu con. Donc voilà, j'espère qu'ils vont trouver un juste milieu, parce que sinon, à terme, ça risque d'être problématique.
Et on va parler de ton crack du moment, Dota Underlords.
Ah voilà, ça, c'est mon autre drogue avec, mes cocaïnes actuelles, c'est Dota Underlords, Apex, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Je refais un peu de PUBG, j'avoue. Voilà le plaisir coupable. Et puis Monster Hunter, évidemment. Voilà. Et puis je rajoute plein de jeux solo. J'essaye de venir à bout de mon backlog, mais je vous avouerai que je ne suis pas extrêmement fidèle à mes résolutions de 2002, je crois.
C'est ça.
je crois que je ne me suis jamais vraiment mis sur mon backlog. Donc Dota Underlords, on en a déjà parlé plein de fois et on avait annoncé qu'ils allaient faire une saison 1. C'est disponible. La bonne nouvelle, c'est que le Season Pass qui débloque plein de trucs en cosmétique, etc., ne coûte que 5€. Donc ça, si vous aimez un peu le jeu, c'est le moment de mettre la main en porte-monnaie, parce qu'en fait, il y a plein de trucs rigolos dedans, à savoir que, alors je vous passe, hein, évidemment, ils ont tout refait, l'interface est beaucoup plus sympa, quand tu gagnes ou tu perds d'ailleurs, un match, l'écran de résumé, c'est un espèce de faux journal qui apparaît en scrolling, c'est beaucoup plus classe que ce qu'il y avait avant, il y a 1 milliard de trucs pour customiser ton terrain, ton portrait, portrait, les titres de, pour mettre sur ton portrait, etc. Ils, évidemment, en free-to-play, ils sont pas débiles, ils savent qu'il faut rajouter plein de trucs comme ça. Ils l'ont fait, c'est plutôt bien fait. Et le truc qui est la vraie surprise, parce que moi, je savais pas du tout que c'était prévu, alors j'ai peut-être zappé, j'ai pas tout lu non plus, hein, c'est qu'en fait, il y a un mode qui s'appelle White Spire, qui est en fait une sorte de conquête de la ville. En fait, il y a tout un scénario dans Dota Underlords, contrairement à Auto Chess de base. Et du coup, là, ils se sont dit, OK, donc t'as une carte, t'as... Parce que moi, je reviens, je back up pour ceux qui n'ont rien suivi, mais il y a eu une grosse modification dans Dota Underlords par rapport au Auto Chess de base. C'est qu'ils ont rajouté les Underlords, qui sont en fait des personnages très puissants qui arrivent au bout d'un moment dans la partie. D'accord. Et toi, tu peux choisir entre quatre persos différents. Et du coup, ils ont scénarisé ces quatre persos, qui sont en fait des persos qui essayent de prendre le contrôle d'une ville imaginaire. Et donc, dans ce mode White Spire, tu as des quêtes à accomplir pour conquérir toute la map, en fait. Alors, chaque quartier représente un des personnages, et toi, tu vas aller faire différents trucs, et ils ont pas fait que des combats. Alors, ça, t'as du PVE, en fait, avec des sortes de bastons à résoudre. On t'impose certaines unités en face de toi, qui vont être contrôlées par l'ordinateur, et toi, t'as un choix de plusieurs unités pour démarrer ton combat, et après, tu vas faire évoluer ça plus rapidement que dans une game normale, d'ailleurs, pour réussir à les battre, et ça doit se faire en deux tours. Enfin, si tu perds, ça peut faire à 1-1, et le dernier tour, t'es obligé de gagner, tu vois. Sinon, tu recommences et tu peux évidemment choisir d'autres unités, comprendre pourquoi ça passait pas, pourquoi, voilà. C'est hyper intéressant parce que ça t'oblige à apprendre le jeu, donc il y a un petit côté tuto qui dit pas son nom. En revanche, très rapidement, on te balance dans le PVP, mais donc, pour les gens qui viennent de débarquer, ça risque d'être un peu violent, mais bon, si vous perdez cette game, c'est pas grave, c'est juste, on vous dit, voilà, va voir. Et puis reviens, il y a plein d'autres trucs à faire en PVE, ne t'inquiète pas, on va t'apprendre. Donc voilà, je trouve le résultat vraiment vraiment sympa. Le truc qui est chiant, c'est qu'il y a quand même des quêtes PVE, surtout au départ quand tu fais les autres quartiers, qui sont pas passionnantes du tout. Tu sais que tu vas rouler sur les unités, alors ça prend pas 1000 ans, hein, mais c'est pas des trucs. Enfin bon, l'équilibrage du coup global de ce mode est pas fantastique, et l'équilibrage du jeu lui-même est toujours sujet à discussion puisqu'il y a quand même des composants qui sont largement plébiscités là sur la sortie de cette nouvelle saison, et ça, j'aimerais bien que Monsieur Valve fasse attention à l'équilibrage très rapidement, parce que je pense que, enfin, la méta, sinon tout le monde essaye d'avoir les mêmes unités. Alors évidemment, comme tu peux pas, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes unités. Je rappelle que le pool d'un personnage est commun à tout le monde, à tous les joueurs de la carte, donc forcément au bout d'un moment c'est un coin, s'il vaut mieux partir sur autre chose, mais du coup tu te retrouves un peu en difficulté puisqu'il y a bien un mec qui va réussir à avoir, s'il a de la chance, plus d'unités que tout le monde sur ce truc là, genre cette saloperie de chevalier par exemple, pour pas dire leur nom. Mais bon, mon ami Archéon, qui est bien accro à genre de drogue aussi, me disait qu'il a quand même trouvé, il y a pas mal de variants, donc il y a de quoi s'amuser. Ouais. C'est pas broken, hein, y a eu une bêta de super longue, donc voilà. Mais il faut faire attention. Et puis je rappelle que ils ont un système assez perturbant pour les gens qui jouent, qui arrêtent et qui reprennent le jeu, c'est qu'en fait à certains moments, des personnages ne sont plus disponibles dans le jeu. Et du coup, des fois t'attends un perso et tu te dis pourquoi il sort pas. Mais parce qu'il est pas là en ce moment. Il est parti en vacances, il va revenir. Donc voilà.
Et comme nous avec Torréfaction.
Voilà, surprise. Et surtout, il y a des personnages qui reviennent et puis ils sont plus dans les mêmes, les alliances ont changé, ils font plus les mêmes choses, etc. Donc faites bien attention quand vous reprenez le jeu, il y a parfois un petit peu des vérifs à faire comme ça pour pas se retrouver embêté en pleine game, quoi.
Allez, on passe du côté des consoles avec des news de la nouvelle Xbox. Alors, oh là là. On a un nom maintenant. Enfin, j'ai perdu le fil des histoires de noms et tout.
On l'avait, mon ami Fasque. En fait, on l'a pas. Hein. On a comme nom Xbox Series X, à comprendre qu'à l'intérieur de ce truc-là, il y aura plusieurs variantes. Donc, c'est ça. Avec différents tarifs. Donc ça avait été annoncé. Ils avaient lâché ça il y a quelques mois déjà, sans en dire plus. Là, les dernières rumeurs qui sont sorties sont pas des rumeurs, c'est des annonces qui sont une sorte de teasing pré-E3, si tu veux. Où MS a enfin balancé quelques informations concrètes sur ce qu'il y aura dedans, c'est plutôt bien parti quand même, hein. Pour le CPU, ils nous ont confirmé que l'architecture Zen 2 sera utilisée, donc le Zen 2, c'est ce qu'il y a dans les Ryzen de la série 3000, hein. Donc c'est une très bonne nouvelle. On sait tous que les Ryzen, ce sont les CPU à acheter en ce moment. Désolé Intel. Non, d'ailleurs, on n'est pas désolé, vous avez qu'à faire bouger votre fion. Pour les cartes graphiques, alors c'est un peu marketing slash on vous fait rêver, c'est-à-dire C'est-à-dire que donc MS annonce que ça sera bien du RDNA 2 d'AMD. C'est une nouvelle architecture qu'on n'a pas vue sur PC, en fait. Donc, on ne sait absolument pas ce que ça vaut. MS annonce 12 teraflops de puissance. Alors, bon, comme ça, évidemment, ça vous parle vachement. Votre jambe est beaucoup plus belle, hein, évidemment. Je le sens d'ici. Pour vous donner un peu des références, c'est deux fois la puissance de la Xbox One X, huit fois la puissance de la Xbox One de 2013. Encore heureux, hein. Enfin, je veux dire, en 2020, on y va, les gars. Et ça vient se positionner entre la GeForce RTX 2080 de Nvidia et la 2080 Ti. Donc, on est quand même sur du très haut de gamme. Et si ça se confirme, c'est une excellente nouvelle. On sent, enfin, voilà, si toutes les consoles de la série X sont à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, comme ils annoncent une puissance mouse, le marketing s'est emballé, évidemment. Et donc, on nous annonce du 120 FPS, du 8K. Oui, parce que tout le monde a des télé 8K chez la soir. Hein, voilà, évidemment, il faut changer sa télé pour jouer avec la nouvelle Xbox. Donc, en fait, on s'en fout de tout ça. Hein. Donc, le seul truc que moi, ça me dit, c'est que du coup, on peut enfin espérer du 60 FPS stable sur une console, ce qui sera déjà pas mal. Si c'est en 4K, bah, alors là, c'est royal, très bien. Je pense que tous les jeux n'y arriveront pas, évidemment. À côté de ce truc-là, ils annoncent du HDMI 2.1 qui permet d'avoir donc un truc qui s'appelle le Auto Low Latency Mode. En gros, les consoles qui sont compatibles avec ce genre de truc peuvent forcer une télé en fait à virer tous ces traitements à la con pour vraiment être en gaming mode en fait, c'est déjà un mode qui est présent sur toutes les télés. Hein. Si vous savez vous servir d'un menu sur une télévision, vous pouvez l'activer comme un grand. Là, le but du jeu, c'est de l'activer pour les Américains qui lisent jamais leur menu. Voilà, c'était gratos. le ray tracing est annoncé aussi. Pareil, on n'en sait rien. Enfin, on ne sait pas ce que ça va valoir. Est-ce que ça va être très performant? Est-ce que qualitativement, ça sera à la hauteur? Est-ce que les jeux vont l'utiliser? Le seul truc qu'on sait, c'est que oui, c'est intégré en hardware dans le RDNA 2, mais comme on n'a pas vu la carte sur PC, on ne sait pas si c'est bien. On ne sait pas comment ça se positionne par rapport à l'architecture RTX chez Nvidia. À part quelques devs privilégiés, on n'a aucune idée de ce que ça vaut. L'autre truc qui est annoncé, mais avec des termes suffisamment flous pour qu'on ne sache pas exactement ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un SSD genre next-gen, blablabla, qui va être intégré. Bon, on sait qu'il y aura du SSD. Bon, apparemment, Microsoft essaye de nous faire comprendre que ça sera pas du SSD au rabais. Bah, très bien, pareil, on attendra pour juger sur pièce. Mais en tout cas, toutes les rumeurs ont l'air de confirmer que ça sera du haut de gamme. Donc, bah, tant mieux, hein, finger cross, parce que un SSD rapide dans une console, ça va changer quand même pas mal de choses.
C'est
c'est vraiment le point faible des machines actuelles quand on les bidouille pas. Et dans les fonctionnalités que ce genre de truc va amener, il y a un truc qui m'intéresse vachement qui s'appelle le Quick Resume. Et le Quick Resume, bah, c'est hyper rigolo. On le connaît déjà, en fait. C'est une fonction qui te permet d'éteindre ta console et de reprendre ton jeu quand tu la rallumes là où t'en étais. Alors, ça existe déjà sur Switch, PS4, Xbox One. Le problème, c'est que ça marche que sur un seul jeu à la fois. Là, maintenant, ça va être géré complètement sur n'importe quel jeu. Et alors, je sais pas exactement si ça va prendre de l'espace. Est-ce que ça va copier la RAM? Ce qui serait débile, ça prend beaucoup de place. Est-ce que ça va prendre juste, est-ce que ça va être codé dans les jeux pour faciliter le truc et tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité en termes d'usage et de qualité de vie qui est vraiment hyper intéressante. L'autre truc qui est intéressant, c'est le Smart Delivery. Alors, Smart Delivery, je trouve que c'est un bien gros mot pour un geste commercial de Microsoft, finalement. En gros, c'est si t'achètes un jeu de chez eux, donc qui va du Microsoft Xbox Game Studio, si tu l'achètes sur Xbox One en ce moment, genre le dernier Halo qui va sortir, etc., tu vas l'avoir aussi sur la série X. C'est-à-dire que si tu changes de console, bah, quand tu vas réinstaller le jeu, on va pas te refaire payer pour une nouvelle version. Tu vas télécharger directement la version série X. Donc, ça, c'est plutôt cool. En revanche, plutôt cool, ça faisait longtemps.
Ding, ding,
ding, ding. En revanche, Microsoft, ils essayent de convaincre les autres éditeurs. Et là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce que quand ils vont essayer d'expliquer le concept que les gens repassent pas la caisse à Activision Electronic Arts, je pense qu'on va rire. J'aimerais bien être une petite souris sur ce genre de meeting. Il y a la rétrocompatibilité qui est aussi confirmée, mais ça, on le savait déjà. Mais là, ils sont carrément en train de dire que les jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One tourneront mieux sur Series X. Et ouais, les gars, ils ont des, tu vois, les bonnes bouboules, là, ils sont en mode genre, ouais, notre console, elle va être trop bien. Donc, le but, c'est que survendre peut-être un peu, je ne sais pas, leur programme de rétrocompatibilité et de dire que là, il y aura un framerate plus stable, des temps de chargement plus rapides, meilleure définition d'image. Et c'est pas impossible. C'est-à-dire que là, vu la puissance de la console, vu le SSD, etc., ce qu'ils vont mettre dedans, il sera peut-être temps de refaire des vieux standards de la Xbox 360 qui se traînaient la patte à l'époque et qui maintenant vont être super bien. Nous, on connaît le principe sur PC parce que ça nous arrive quand on change de machine et qu'on on a le même jeu, on a l'habitude. Donc voilà, il nous manque évidemment les informations de base, la gueule de la console, surtout son prix, parce qu'avec tout ça, elle va pas être gratuite. Hein. Et ça devrait être annoncé à l'E3 cette année. Bah, l'E3, on attend de voir, hein, parce qu'il risque d'être annulé comme plein de trucs à cause d'un petit rupture mondial qui se balade en ce moment. Hein. Je ne vous fais pas de dessin. Et puis surtout, il y a plein d'éditeurs qui n'ont pas du tout envie d'y aller. Donc bon, il y aura au moins ça, si le salon se fait, il y aura au moins ça à découvrir. Mais préparez votre chéquier, parce qu'avec tout ce qu'ils mettent dedans, là, on part pas sur une console à 300 balles comme chez Nintendo, ça c'est garanti.
Allez, on termine la section gaming avec des news, des bonnes news du côté de GOG qui frappe fort côté remboursement.
Ouais, alors ça fait plaisir. Alors, c'est trop mignon parce qu'en plus ça fait plaisir et en même temps ils te demandent de pas en abuser. Ça c'est vraiment genre, bon, on a fait un truc bien mais putain, on risque de le payer très cher. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé leur politique de remboursement. Leur politique de remboursement maintenant c'est 30 jours après la date d'achat, même si tu as téléchargé le jeu, et ouais, et même si tu l'as lancé et que tu y as joué. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que d'habitude c'est genre t'as pas téléchargé le jeu et tu veux te faire rembourser parce que genre t'as fait une erreur ou tu veux te faire rembourser le jeu parce qu'il marche pas sur ta machine et il faut entre guillemets le prouver, c'est à toi de te démerder pour les convaincre, enfin tu vois, à peu près chez tout le monde c'était comme ça, enfin en tout cas c'est comme ça, et chez eux bah ça vient de changer parce que je vous cache pas que GOG ils essayent de se faire un petit peu une place et que c'est un peu compliqué avec l'Epic Game Store qui a mis le mode pelleteuse tout ce que tu veux machine qui aplatit les routes, donc qui sont en train de se dire, ok, entre Steam et Epic Game Store, ça va commencer à être compliqué. Il y a des petits stores indés à droite, à gauche. Eux, ils ont quand même une vocation à être, on va dire, global. Et là, ils cherchaient un peu des options pour faire ça. Donc, ils ont trouvé ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a aussi, associé à ça, une espèce de demande, genre, bah, n'en abusez pas non plus pour faire tous les jeux en un mois et vous faire rembourser le 29e jour. Parce que bah, sinon, on sera obligé d'enlever, ça sera de votre faute. Voilà. Donc, on verra bien comment ça se passe à terme. Mais en tout cas, la nouvelle est excellente et j'espère qu'il n'y aura pas trop de débiles pour en abuser.
Allez, on passe du côté des apps et ça y est, tu nous as enfin sorti ton dossier sur ce soft que tu recommandes tout le temps.
Yes! Sur lequel on est en train de travailler au moment où nous faisons ce podcast. Donc, ça s'appelle Notion et je ne vais pas du tout vous expliquer ce qu'est Notion dans ce podcast. Je vais vous dire d'aller lire le dossier qui est linké dans le billet qui accompagne ce podcast parce que j'en ai fait un peu 4 pages, enfin l'équivalent d'un peu plus de 4 pages de magazine, donc ça va vous faire un peu de lecture. C'est un logiciel qui sert à plein de choses, de la prise de notes, de la gestion de tâches, de la gestion de projets. Il y a un milliard d'usages de ce truc-là parce que ça cumule des fonctionnalités qu'on trouvait explosées sur plein de soft avant. Maintenant, il y a tout à l'intérieur de celui-là. Donc, c'est la prise de notes, toutes les notes, tout ce que tu mets dans une page de notes, en fait, c'est des blocs, donc tu peux les retravailler, les bouger, etc. Tu peux mettre des images, des fichiers sonores, tout ce que tu veux. Et en plus, évidemment, il y a une fonctionnalité Ultimate, qui est la base de données, qui te permet de faire de la base de données relationnelle, en fait, et donc de faire des pages dans des pages dans des pages, le tout dans des beaux tableaux, et tout ça peut se parler. Ça a l'air hyper compliqué comme ça, ça peut l'être, je vais pas vous mentir quand vous faites n'importe quoi, mais la prise en main est extrêmement simple, l'interface est vraiment super.
Et puis il y a plein de templates pour démarrer, donc c'est super pratique.
Voilà, tu peux télécharger, aller voir, bidouiller, comprendre un peu comment ça marche à ton rythme, c'est vraiment super. Du coup, voilà, allez lire le dossier, et puis après, je vous embête plus avec ça, tout va bien.
Et on va parler de nos amis d'Opera avec des news du côté de leur browser.
Ouais, c'est la version R2020 qui vient de nous arriver, qui est en fait la version 67, hein, pour les gens qui suivent la numérotation classique. Ils ont pas rajouté grand-chose, mais ils essayent de résoudre une problématique que je vois chez plein de gens. Je vous vois, vous tous, avec vos milliards de tables ouverts sur vos navigateurs, espèce de bande de gens qui ne mangent rien.
Faut arrêter ça tout de suite.
Faut arrêter ça, évidemment. Donc, ils se sont dit, on va essayer de leur mettre en place un truc un peu plus sympa et surtout intégré dans le navigateur. Il y a des extensions qui essayent de gérer cette problématique, mais comme rien n'est intégré dans le navigateur, c'est jamais fabuleux. Donc là, ils ont rajouté un truc qui est juste, en fait, un espace, une fonctionnalité qui permet de regrouper ces tables en fonction d'espaces dédiés.
D'accord.
Donc, vous pouvez avoir, je sais pas moi, un espace taf avec tous vos outils de gestion pour vos projets, les tables en relation avec ça, vous êtes en train de faire des recherches pour une problématique quelconque, vous pouvez tout regrouper avec dans un espace dédié, et évidemment le but du jeu c'est de pouvoir switcher entre ces espaces, donc changer et reloader tous les bons tables au bon moment et de programmer vos espaces de travail avec ce truc là également. Donc c'est plutôt intéressant comme idée. J'aimerais bien que ça se développe, voire même que l'interface soit améliorée. Et je vous avouerai que si les autres pouvaient voler ça, ça m'irait très bien. parce que Opera, je l'utilise, hein, mais c'est pas mon navigateur principal. Donc, on verra bien. En plus, j'avais fait une news. Alors, je sais plus si j'avais fait une news ou si on en avait parlé dans le podcast, mais il y a quand même des malversations diverses et variées dans la maison mère d'Opera, qui est chinoise, je vous rappelle. Et donc, il se passe des trucs un peu chelous. J'ai pas envie que la boîte périclite du jour au lendemain et qu'on se retrouve bien embêté. Surtout que, en plus, j'en profite pour vous rappeler que Opera Touch en la version mobile est vraiment intéressante. Si vous cherchez un navigateur un petit peu sympa et qui change vos habitudes, vous pouvez les voir de ce côté-là. Il y a un bloqueur de pub en plus intégré, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment bien pensé. Ils n'ont pas les parts de marché qu'ils méritent, mais genre un peu comme Vivaldi ou notre ami Firefox, installer Firefox.
Ouais, ça c'est fait. Allez, on passe du côté de la culture. Est-ce que tu te souviens de Céron, Marc, de son petit nom?
Oui, bien sûr. Mais c'est vieux.
Ah oui, c'est vieux. Oui, c'est une des figures emblématiques de l'Eurodisco. Donc fin des années 70, début des années 80, notamment avec un tube que tu dois connaître qui s'appelle Supernature. Il a fait plein d'autres trucs. Et je suis tombé un peu par hasard sur son tout dernier album qui est sorti il y a pas très longtemps, le 7 février. Une vingtaine de jours, et j'y suis allé honnêtement un peu à reculons, parce qu'en fait il en avait sorti un autre en 2016 qui s'appelait Red Lips, qui était une tentative de faire un peu de la pop. Il y avait plein de guests, plein de featuring et tout, et c'était pas très intéressant, on va pas se mentir. Donc ici en fait je l'ai lancé, et en fait bonne nouvelle, il est revenu à ses amours, à ses premiers amours, il est revenu au disco. Et franchement, après l'avoir écouté, tu m'aurais dit c'est un album des années 70 qu'on a remasterisé, je serais tombé dans le panneau, parce que vraiment ça sonne comme un album de l'époque qui aurait été enregistré aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'instruments modernes, il n'y a pas de son, il n'y a pas de drop de bass, il n'y a pas ce genre de truc. C'est vraiment de la disco pur jus avec des petites mélodies, avec des machins, et tout ça avec un son ultra propre comme on peut le faire aujourd'hui. Donc voilà, plutôt que d'en parler, on écoute rapidement un petit extrait. C'est le morceau d'ouverture, c'est le single aussi qui était sorti en octobre dernier, qui s'appelle The Impact. Et d'ailleurs, vous allez entendre qu'il y a un petit rappel de Supernature justement dans le morceau.
Il est malin.
Devrait plaire aux fans de Giorgio Moroder et de New Disco, donc The Impact, tiré donc de son dernier album DNA qui est sorti il y a quelques jours. On reste dans la culture très vite. Tu voulais reparler d'une série dont on avait déjà parlé en fait.
Bah oui, et c'est pour ça que c'était juste le reminder de la semaine pour vous dire que Altered Carbon, la saison 2 est dispo, et non, Netflix ne me paye pas pour dire ça. C'est juste que j'avais adoré la saison 1 et je veux pas être tout seul à être énervé si jamais la saison 2 n'est pas à la hauteur, parce que je compte bien commencer à la regarder dès ce soir. Et si vous voulez savoir de quoi ça parle, etc., on en avait donc fait le tour dans le Torréfaction 117.
Allez, on passe du côté de la tech avec une nouvelle fonctionnalité dans Firefox. Et puis du coup, bah, c'est l'occasion de rappeler pourquoi c'est bien. Et de quoi s'agit-il donc?
Il y a un gros débat en fait sur le pourquoi c'est bien. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. C'est le DNS via HTTPS. Alors là, quand je vous dis ça, vous êtes là, wow, je suis dans ma bagnole, j'écoute un podcast, c'est compliqué, CAF, pourquoi tu fais ça? Non, tout va bien. Le DNS sur HTTPS, c'est en fait une fonctionnalité. Alors le DNS, je rappelle que c'est ce qui vous permet de traduire, quand vous tapez geekzone.fr, c'est ce qui va traduire ça avec l'adresse de notre serveur directement. La problématique, c'est que quand vous faites ça, vous envoyez cette information à votre fournisseur d'accès. Et du coup, bah, votre fournisseur d'accès sait que vous allez sur Geekzone et oh là là, sale geek. Mais évidemment, il le sait avec tous vos sites. Je ne vous fais pas de dessin. si vous allez sur certains sites bizarres, et bah, ils le savent aussi. Et bon, bah, là, Firefox a dit, il faut aider nos utilisateurs. On va donc encrypter tout ça pour que les gens qui sont derrière les machines de nos opérateurs ne puissent pas savoir ce que vous allez regarder sans avoir besoin de passer par un VPN, etc. Donc, sur l'idée, sur le principe, c'est hyper intéressant et merci messieurs. Mais derrière, techniquement, en fait, il y a toute une problématique beaucoup plus complexe qui vient se rajouter. Et il y a plein de gens qui disent que, en fait, ça ne sert à rien et que ce n'est pas effectivement aussi efficace que ce qu'on pourrait espérer, puisque les opérateurs ont bien d'autres moyens de savoir ce que vous faites sur votre machine sans avoir besoin de ce truc-là. Donc, bon, moi, je voulais vous dire que ça existe. Pour le moment, c'est pas, ça va exister d'ailleurs, je pense, dans d'autres navigateurs très rapidement. C'est annoncé comme une fonctionnalité activée par défaut dans les prochaines versions de Firefox, mais vous pouvez déjà l'activer dans le Firefox qui est sorti, qui est la version actuelle. Sauf que, bon, voilà, il faut le faire à la main. Il sera juste activé par défaut dans les prochaines versions. Et puis, dans les débats autour de toute cette fonctionnalité, il y a aussi la problématique que Firefox est allié à Cloudflare pour, justement, la gestion de ses DNS par ailleurs. Et, du coup, c'est une boîte privée, donc il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui ont même eu des réactions épidermiques en disant « Oui, moi, j'ai mes propres DNS. »
Tu peux les rentrer, en fait. Hein, si j'ai bien compris, dans Firefox, tu peux choisir ton provider, en fait. Mm-hmm. Tu n'es pas obligé de prendre Cloudflare et proposer par défaut, mais tu peux rajouter ton propre provider à ce niveau-là, je crois.
Alors, il faut que j'aille vérifier de ce pas, mais la problématique, c'était effectivement d'activer par défaut de forcer Cloudflare. Il y a des gens que ça a défrisé, à tel point qu'il y a des mecs, évidemment, sur des trucs de barbu. Hein, je vous parle de gens qui réagissent sur Hacker News, donc on n'est pas sur l'internaute de base, entre guillemets. Qui est en mode genre « Oui, j'ai désinstallé tous les trucs de Mozilla, c'est vraiment, ils font n'importe quoi, là là là, machin et tout. » Bon, calmez-vous tous, puisque fondamentalement, c'est pas très grave. C'est juste qu'effectivement, c'est bien de mettre sur le devant de la scène cette problématique et de voir maintenant comment on peut la gérer du mieux possible. Est-ce que c'est la version, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Je suis pas certain, mais on verra bien à terme ce que ça donne. Je vous link dans le billet qui accompagne le podcast plusieurs papiers qui explique tout ça et vous verrez qu'il y a déjà plusieurs moyens de faire ça proprement chez les autres navigateurs et que la gestion de la vie privée est quelque chose qui est au cœur de leurs préoccupations et donc on verra bien comment ça évolue puisque évidemment à chaque fois c'est un jeu, c'est le chat et la souris, hein. Ouais. À chaque fois que quelqu'un trouve une solution, les autres de l'autre côté font genre bouge pas, on va te remettre une petite couche de trucs relous parce que nous on est comme ça, c'est ce qui se passe pour la publicité, enfin, on a l'habitude, c'est comme ça que ça marche tout le temps.
Et allez, on termine ce 121e épisode de Torréfaction avec un rant de Jean-Pierre Caff.
Yeah! On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas cette fois-ci?
Ah là là! Je vais parler de politique mondiale.
C'est comme ça que je me casse.
Ah mais non, mais on avait dit qu'on faisait un podcast rigolo, qu'est-ce que tu fais? Je reste sur la problématique de la vie privée, figure-toi. Non, là j'ai lu des papiers qui m'ont vraiment mis hors de moi et qui touchent en tête de pont le gouvernement américain actuellement, mais en fait il y a d'autres qui ont été stupides avant et puis notre gouvernement à nous qui a hâte que les Américains soient stupides. De quoi je parle? Je parle en fait de toute cette volonté d'affaiblir en fait le chiffrement de notre vie privée numérique pour que tout le monde puisse y avoir accès du côté de nos gouvernants et de nos forces de l'ordre adorées et c'est une énorme connerie. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait la DOJ, donc le département de la justice américaine, est en train de manipuler, ça fait un moment hein, qu'ils y sont, les mecs lâchent rien, est en train de manipuler tout le monde pour essayer de faire changer les mentalités. C'est-à-dire qu'ils ont compris que en y allant en frontal avec Facebook, Apple et compagnie, ils auraient jamais leur petit petite bague d'or adorée. Et donc, ils sont très fâchés. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, on va parler des terroristes, ils auront peur et on va avoir nos bagues d'or. Ça n'a pas marché. Donc là, il y a eu des affaires dernièrement qui sont passées avec des pédophiles. Et donc là, ils se sont dit, ah, on va changer notre discours. Maintenant, si tu es...
Bah oui.
Ils sont malins, les mecs. Hein. Si tu es pour le chiffrement, ça veut dire que tu es pour les pédophiles.
Bah tiens.
Donc, magnifique. J'ai envie de te dire que là, comme raccourci, on peut pas faire mieux. Surtout, enfin, tu vois, c'est quand même... On parle de politiciens véreux qui aimeraient bien que leur conversation reste privée, tu vois. Ils se rendent pas bien compte de ce qu'ils sont en train de faire, les mecs. Donc déjà, c'est stupide. Mais cette stupidité a un précédent. C'est-à-dire qu'il y a des lois complètement débiles qui ont été votées déjà en Australie et en Angleterre. Et donc, du coup, ils se disent... putain, c'est le moment. Là, on va y aller. C'est bon, ça passe maintenant. On arrive à tout faire passer. Donc, ils sont en train d'essayer de convaincre les mecs du Sénat, etc. Mecs du gouvernement américain qui sont en mode genre, bah, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme de toute façon, ils y comprennent rien. Bon, bah voilà, c'est les bons vieux discours par la peur. Et c'est évidemment une connerie sans nom. Puisque, les premiers États qui seront ravis si ça passe, ça sera quand même les gars qui sont pas trop leurs copains, genre des Russes, des Chinois.
Bah oui. Ouais.
Donc, ils sont leurs copains sans être leurs copains. Attention, hein, je veux pas créer de conflit, tu vois, mais même les services secrets israéliens sont ravis, tu vois, c'est loin d'être les plus nuls du monde. Je pense qu'ils ont déjà des moyens pour aller voir ce qu'ils veulent voir, mais là, ça sera juste un autoroute pour eux. Donc, ces mecs sont juste stupides et c'est incroyable qu'on soit en 2020 et qu'il y ait toujours personne pour expliquer à ces crétins que, non, faut pas le faire. Et attention, hein, quand je dis ça, je parle pas juste des États-Unis, puisque les gars de notre gouvernement à nous, qui ont un track record assez impressionnant sur les dernières années, sur divers sujets, je n'en dirai pas plus.
C'est ça.
Ils sont évidemment à fond derrière cette idée, parce que, oh là là, trop bien, on va enfin pouvoir arrêter les terroristes et les pédophiles, ça va être génial. Alors qu'en fait, oui, non, c'est pas du tout ça. Hein. Le but du jeu, c'est de pouvoir aller vérifier si vous êtes en gilet jaune et que vous avez les thématiques manifestées. Il y a les dérives de ce genre de trucs sont évidemment stupides, et en même temps les mecs te disent oui, la vie privée de nos citoyens en ligne elle est hyper importante pour nous et tout. Foutage de gueule, mais de folie. Donc les deux discours ne peuvent pas cohabiter, ce n'est pas possible, et j'ai hâte de voir comment ça va se finir. À mon avis, mal, hein, parce que de toute façon, vu la dynamique mondiale actuelle, j'ai peu d'espoir que les mecs prennent une décision intelligente, mais on en est là. Et donc c'était mon coup de gueule de la semaine, et je pense qu'il va revenir sur le devant, tu vois, je vais en parler régulièrement, mais voilà, sachez que actuellement il y a plein de mecs qui parlent de ça. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens sur le forum, parce que là je vous avoue que dans le billet qui accompagne le podcast, vous n'aurez rien, mais venez en parler avec nous, si vous avez des infos d'ailleurs là-dessus, venez en parler sur le forum, ça m'intéresse de débattre de cette problématique qui, à mon avis, va être très compliquée pour plein de gens.
Et c'est la fin de ce 121e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on vous souhaite un bon week-end. Tu vas faire quoi, toi, Kalf?
Je pense qu'il va y avoir une sorte de binge-watching de notre ami...
C'est vrai.
De notre Altered ami Carbone. Et un peu de jeux vidéo, parce que c'est pas tout ça, mais moi, je l'ai acheté, le pass à 5€ de Thunderlords, rentabilisé maintenant. Voilà. Et puis, si jamais tu veux vraiment me remonter le moral, on peut jouer à Street Fighter aussi, tous les deux.
Ah oui, ça, je te confirme, ça va remonter le moral.
Et ça, je crois que tu n'as jamais gagné, et je crois que ça fait du bien.
Je pense que tu vas te faire chier, en fait.
Ok, je vais jouer contre l'ordi, tout va bien.
Allez, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.